Julien, pour un nouveau cours Elden Vidéo.
Oui, merci beaucoup d'être là chaque semaine et d'être fidèle avec ces cours LDN. Et la semaine passée, Claude, on a abordé le sujet de la lettre qui tue. Et cette semaine, on va aborder la deuxième partie de ce même verset qui est « Mais c'est l'esprit qui vivifie ». Ça m'a plu, ça.
Oui, et on va citer d'autres exemples, comme on a fait dans le cours précédent, mm-hmm. et à travers lesquels eh bien, on veut chercher à comprendre ce que Dieu nous dit. Et on croit que le Saint-Esprit, qui veut vivifier notre esprit, on pourrait dire qui veut vivifier la lettre aussi à nos yeux, qui veut faire du logo un réma,
mm-hmm. on peut dire. Exactement.
Eh bien, il touche notre intelligence, il touche notre cœur, il touche notre capacité de comprendre, d'être instruit, parce que Jésus a dit qu'il nous enverrait le Saint-Esprit et que celui-ci nous conduirait dans la vérité, toute la vérité, et qu'il nous enseignerait toutes choses.
Ah oui, je crois que c'est le désir de nous tous, n'est-ce pas? C'est d'être branché au Saint-Esprit pour que, quand on lit les Écritures, on soit vraiment inspiré par lui et que on arrive à discerner de mieux en mieux chaque jour les différences entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu.
Et pour cela qu'on n'ait pas une lecture religieuse, dans le mauvais sens du
ni
terme,
superficielle,
légaliste, mmh, n'est-ce pas? Mais que vraiment, cette parole procure la vie. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, mmh. et la vérité vous affranchira. Donc, lorsqu'on
absolument.
Comprend bien la parole de Dieu, on se retrouve affranchi. Mais encore plus important, c'est ouais. qu'on affranchit les autres à notre tour.
Ah oui.
Mais quand on la comprend mal, on se retrouve asservi, mmh. et on a servi les autres à notre tour, en utilisant ce qu'on croit être la parole de Dieu.
Oui. Et je pense qu'à travers les exemples qu'on donne et les mises en garde que aussi. Tu donnes aussi, on peut vraiment aider chacun de vous de discerner dans chaque situation qu'est-ce qui se passe.
Ajuster et réajuster,
c'est
un
le
travail
mieux.
De longue haleine qu'on fera tout au long de notre vie avec
Saint-Esprit,
la parole de
aide-nous.
Dieu.
Aide-nous. Alléluia.
C'est parti. Dans 2 Corinthiens 3, 6, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie, nous dit l'apôtre Paul. Et tout d'abord, précisons quand même que dans le contexte de ce passage, l'apôtre Paul fait allusion aux paroles, aux commandements qui ont été donnés sous la première alliance, expliquant par là que la première alliance, du fait qu'aucune personne ne peut mettre en application parfaitement tous ces commandements, y compris les Hébreux à l'époque ou les Juifs ensuite, eh bien, cette alliance ne peut procurer la vie, parce qu'elle disait elle-même « malheur à celui qui ne met pas en application tous ces commandements ». Donc, cette alliance et les paroles de cette alliance produisent la mort. Mais les paroles et le principe de la nouvelle alliance en Jésus-Christ qui nous permet de ne pas trouver notre justification avant tout dans la mise en pratique, mais par le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous, eh bien, les paroles de cette nouvelle alliance, elles procurent la vie. Toute parole de Dieu prise avec légalisme, on l'a vu vis-à-vis du divorce, vis-à-vis de plusieurs exemples que nous avons donnés, on ne réfléchit pas plus. Okay. Eh bien, c'est la mort qui en est la conséquence et non la vie. Et nous nous rendons compte que beaucoup d'enfants de Dieu, plus ils essayent de mettre en application la parole de Dieu, mais avec un esprit légaliste, rempli de jugement à l'égard des autres, et puis parfois à l'égard d'eux-mêmes, eh bien cette parole se retourne contre eux et produit la mort. Donc la lettre « tu », c'est un principe, mais un principe qui nous intéresse bien plus, c'est que c'est l'Esprit qui vivifie. L'Esprit de Dieu est là pour nous permettre, même dans les moments où on est au plus bas, même dans les moments où on a raté la cible, on n'a pas été à la hauteur de ce que nous demande la parole de Dieu, eh bien de nous communiquer ou nous recommuniquer la vie. La seconde 21 nous dit « c'est l'Esprit qui fait vivre ». Toute attitude légaliste, eh bien, produit la mort, alors que l'Esprit de Dieu, capable de nous renouveler, capable de nous restaurer, capable de nous aider à développer notre intelligence et de mieux comprendre ce que Dieu nous dit et adapter sa parole à chaque situation, produit la vie. Dans le cours précédent, nous avons cité plusieurs passages de l'Écriture pour nous faire comprendre que selon comment on les interprète, eh bien, on peut leur faire dire autre chose que ce qu'ils veulent nous dire au départ. Parce que la parole de Dieu incomprise se retourne contre celui qui l'a maniée, non pas seulement contre lui souvent, mais malheureusement aussi contre sa famille. On le voit dans cet exemple du Deutéronome 5:8, où il nous est dit, ce commandement nous dit, tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, etc. Est-ce que cela signifie que dès lors, toute sculpture, toute peinture, photo, vous voyez, si on prend littéralement ce passage, est une abomination aux yeux de Dieu. Posséder un appareil photo, ça serait même un péché dès lors. Et on parlait justement de la parole de Dieu qui peut blesser une famille entière. Et je connais l'exemple d'un chrétien qui a arraché toutes les tapisseries chez lui, jeté tous ses bibelots, les jouets de ses enfants et toutes les photos de famille, croyant mettre en pratique justement ce passage, la parole de Dieu. Or, l'Écriture nous montre ailleurs que l'Éternel lui-même dit ensuite aux Hébreux de faire des représentations sculptées, brodées, et pas des moindres, des bœufs, des anges, ce qu'on appelle la mère des reines dans le temple, et dans le tabernacle avant le temple, eh bien, était supportée par des bœufs, donc sculptés dans des représentations d'animaux. Donc, notre verset, il se comprend en réalité à la lumière. Voilà, on laisse passer les voitures, on est dehors. Donc, il faut prendre en considération qu'il y a quelques bruits, on doit faire avec. Il y a un avantage à filmer dehors, n'est-ce pas? Mais il y a quelques désavantages aussi. Et puis, nous avons décidé que ces vidéos, elles devaient être assez familiales, n'est-ce pas? Donc, désolé pour les quelques bruits. Quelques voitures, parfois un avion qui passe au moment où il ne faut pas, mais on fait avec, n'est-ce pas? Alors, ce verset se comprend, donc le verset que nous avons cité, à la lumière d'un autre qui déclare, et là, Deutéronome 5:9, justement la suite, « Tu ne te prosterneras point devant elles, ces représentations, tu ne les serviras point. » Nous comprenons que l'interdiction ne concerne pas les représentations elles-mêmes de choses existantes, mais leur idolâtrie. Combien d'enfants de chrétiens sont blessés, fermés au seul mot de Bible aujourd'hui, ou de christianisme, parce qu'ils ont vu leurs parents partir dans toutes sortes de délires qu'ils justifiaient justement par la Bible. Donc nous devons être sur nos gardes et faire attention justement à ce que cette lettre qui tue, eh bien, ne nous tue pas, ne tue pas les gens qui nous entourent, mais que ce soit plutôt l'Esprit qui leur communique à travers nous la vie et par là même la compréhension de ce que Dieu veut nous dire, la compréhension intelligente de ce que Dieu veut nous dire.
Tout le long de notre vie, on entend des paroles. Même quand on est bébé dans le ventre de notre maman, on entend déjà des sons. Mais au cours de notre vie, parfois, il y a quelqu'un qui va nous dire quelque chose. Et cette parole, il est inspiré. Et il y a quelque chose de divin qui fait en sorte que ces paroles-là deviennent comme un repère dans notre vie. Ces paroles-là peuvent même changer les directions de notre vie. Ces paroles-là peuvent être comme un panneau indicateur pour le reste de notre vie. Et on peut revenir toujours en se rappelant, ce jour-là, j'ai entendu cette parole qui était prophétique, qui était annoncée peut-être sur ma vie par quelqu'un, ou que j'ai même lu, ou que j'ai entendu même par l'Esprit de Dieu qui nous a parlé directement à notre âme. Et toutes ces paroles, ce sont des paroles des Réma, et qui sont des paroles vivantes et qui nous amènent à vivre plus passionnément dans notre marche avec le Seigneur. Pour moi, le Réma de Dieu, c'est vraiment cette manne quotidienne qui change chaque fois que je lis même le même passage, mais qui me donne une inspiration divine qui vient directement nourrir mon âme et mon esprit. Et si on cherche Dieu avec un cœur sincère, et je suis sûre que c'est votre cas, eh bien, faites confiance au Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, il attend que ça, que notre cœur soit ouvert pour qu'il puisse poser des graines de l'espérance, de foi, de discernement, pour qu'on peut marcher davantage dans l'Esprit et exercer les dons, parce que nous avons reçu une parole révélée déjà de la part de Dieu et on n'a qu'à ouvrir notre bouche pour la partager avec les autres.
Dans Romains 13, 1, il est question d'être soumis aux autorités. Donc voilà un thème qui a donné lieu à diverses interprétations. C'est un sujet assez délicat. Il nous faut comprendre ce que l'apôtre Paul veut nous dire par là. Dans Romains 13, 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu, dit-il. Il semblerait au premier abord qu'il nous demande de nous soumettre sans condition, sans réserve, aux autorités placées par les hommes. Et ce qui a fait dire à plusieurs justement qu'il fallait leur obéir, quoi qu'elles nous commandent. Alors, c'est là que je vais soulever d'autres questions. Fallait-il obéir à Hitler pendant la guerre ? Est-ce que c'est Dieu qui a placé Hitler ? Et si c'est le cas, on pourrait dire qu'il est responsable de la Shoah. Donc, en aucun cas, je ne peux imaginer que Dieu a placé Hitler en tant qu'autorité dans ce monde. Donc, la Bible nous montre ailleurs que le principe de l'autorité, justement, c'est qu'elles ont été établies pour bénir et non pour oppresser. Que leur être soumis, c'est lié au fait de pratiquer de bonnes œuvres. Les autorités ont été placées, nous dit l'Écriture, pour approuver les gens de bien et condamner les méchants. Et donc la question se pose, lorsque ce sont les gens de bien qui finissent à être condamnés par les autorités et les méchants, qui souvent eux-mêmes sont en place d'autorité, n'est-ce pas, qui sont approuvés par les autorités, c'est le monde à l'envers. Et donc, on ne peut pas aveuglément mettre en pratique ces paroles de l'apôtre Paul et se soumettre, quel que soit le sujet auquel les autorités nous demandent de leur être soumis. Alors, ce qui n'empêche pas qu'au départ, nous voulons respecter les autorités. Et il faut bien faire la différence, d'ailleurs, entre la fonction et la personne. Nous devons respecter, continuer à respecter la fonction, je dirais même l'onction. On se rend compte que David a continué à respecter Saül, malgré que Saül était déjà parti en brioche, si je peux me permettre cette expression, d'accord ? Il en est de même pour le président de la République de notre pays. Vous n'avez pas obligatoirement voté pour lui, moi je vous dirai pas si j'ai voté pour lui ou pas. D'ailleurs, c'est pas le sujet. Je pars du principe que ce n'est pas un bastion de dire pour qui il vote. Mais même si vous n'avez pas voté pour lui ou que je n'ai pas voté pour lui, nous devons quand même respecter la fonction. Et je dirais, faites attention à la manière dont vous parlez du président de la République, dont vous parlez des ministres. La fonction doit être respectée. On le voit d'ailleurs avec Paul, à un moment donné, il passe en jugement et il ne sait pas qu'une certaine personne qui se comporte mal à son égard, parce qu'elle demande à ce qu'il soit frappé, hein, et elle-même, elle transgresse la loi, il ne sait pas que cette personne est justement souverain sacrificateur. Et il se met en colère après elle, et lorsqu'il apprend qu'elle est souverain sacrificateur, cette personne, eh bien, Paul dit, je m'excuse, je ne savais pas qu'il occupait cette fonction. Donc, ça ne veut pas dire qu'il approuve ce qu'a fait ou ce qu'a dit cet homme, puisqu'il a montré clairement qu'il le désapprouvait, mais il se garde d'être irrévérencieux à l'égard de la fonction. Et c'est ce que nous n'avons pas compris souvent. Et je dis aux chrétiens, faites attention, même sur les réseaux sociaux, faites attention, je vois des choses qui sont dites vis-à-vis des autorités sous prétexte qu'on n'est pas d'accord avec elles, qui sont de véritables insultes. Oh, un tel comportement amène un jugement en retour sur nous. Maintenant, il nous est clairement montré dans les actes, n'est-ce pas? Actes déjà 5, 29, où on voit que les autorités en place commande aux apôtres de cesser d'annoncer l'évangile. Et la réponse que leur fait Pierre, ce n'est pas « Ah ben, on doit être soumis aux autorités, donc c'est ok, on va vous obéir. » Non, il leur dit « Jugez vous-même s'il ne vaut pas mieux obéir à Dieu qu'à vous. » Lorsque les autorités, quelles qu'elles soient, nous donnent des commandements qui ne vont pas à l'encontre de principes bibliques, nous devons, oui, leur être soumis. Mais lorsqu'elles nous donnent un commandement ouvertement contraire au commandement de Dieu, nous ne sommes absolument pas tenus de leur obéir. Imaginez à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale que vous cachiez des juifs et les autorités veulent que vous les livriez. Ça aurait été une absurdité, n'est-ce pas? Et vraiment contraire aux principes bibliques les plus élémentaires que de leur obéir. Et heureusement que de tout temps, il y a des personnes qui ont refusé d'obéir à des autorités tyranniques. Donc, comme Hitler à son époque, il y a des autorités qui ont tout simplement été placées par le diable et certainement pas par Dieu. Donc, il nous faut comprendre que lorsque l'apôtre Paul nous dit que Dieu a placé les autorités, il parle du principe des autorités. Il n'y a pas de communauté qui peut fonctionner sans qu'il y ait des autorités. Dieu a placé le principe des autorités. Même dans la famille, il a placé un principe d'autorité. Dans l'Église, il a placé un principe d'autorité. Ce qui ne veut pas dire que toutes les autorités en place sont des autorités justes ou même qui ont été placées par lui. Et parmi celles qui ont été placées par lui, il y en a qui ont dégénéré avec le temps et qui ne respectent plus la fonction et la raison pour laquelle ils ont été établis. Bon, pour être honnête, on va aller de plus en plus dans la confrontation entre les lois des hommes qui vont toujours plus dans le sens de l'iniquité, de l'irrespect des principes bibliques. D'ailleurs, vous avez remarqué, ces derniers temps, les choses aberrantes qui ont pu être déclarées. Un ministre a déclaré que les lois de la République sont au-dessus des lois de Dieu. Maman, comment peut-on arriver à déclarer une chose pareille? Quel mépris vis-à-vis du Créateur, quand bien même on ne croit pas en lui. Un autre point aussi, c'est ce droit au blasphème. Vous vous rendez compte? Vous savez, dans la première alliance, le blasphème faisait partie des choses qui étaient punies, littéralement, de mort. Et aujourd'hui, nous avons droit au blasphème. N'importe qui prendrait très mal qu'on insulte sa grand-mère, qu'on insulte ses parents, mais on a le droit d'insulter Dieu. Il y a droit au blasphème. Donc, vous voyez à quel point nous marchons sur la tête. et qu'il faut s'attendre à tout dans les temps dans lesquels nous nous trouvons vis-à-vis des autorités. Et les lois iniques ouvrent de plus en plus la porte à des puissances de ténèbres. Mais gloire à Dieu, eh bien, l'esprit qui est en nous est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. Et même lorsque nous devons nous opposer ou nous devrons nous opposer à certaines lois, eh bien, nous pouvons compter sur le Seigneur pour nous aider et nous donner la force dont nous avons besoin dans ce combat.
J'écoute la nature autour de moi. J'entends le vent qui souffle, les oiseaux qui chantent. Et en fait, tout autour de nous, il y a des sons qui nous parlent, qui nous apaisent, qui nous excitent et parfois qui nous dirigent. Mais je pense que même dans ma vie, dans la vie avec Claude, certains de nos chants, la façon qu'on les a reçus, les paroles qu'on a pu mettre sur papier, parfois avec une telle facilité, c'était déconcertant. On peut chercher des paroles pendant 2 semaines, qui peut y aller avec une musique, et à un moment donné, mais en 5 minutes, hop, tout est déjà écrit sur le papier. Et ça aussi, c'est comment le Seigneur, il nous inspire par son esprit, une parole vivante. Et on voit le fruit quand les gens nous disent « Waouh, ça m'a vraiment parlé !» Donc, si vous êtes à l'écoute du Saint-Esprit, si vous entendez des paroles, des mots, vous pouvez le mettre sur papier parce que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et cette parole-là va pouvoir les encourager et leur faire du bien. Une parole prophétique pour aujourd'hui ou peut-être pour demain. Parfois, je rencontre des personnes qui me disent « Mais Dieu ne me parle jamais, je ne l'entends pas. » Parfois, ils me disent « Oh, mais je lis la Bible, mais bof, comme ça. » Mais c'est peut-être dans notre façon d'entendre, notre façon d'être à l'écoute, notre façon d'être attentif ou dans l'attente d'entendre l'Esprit nous parler. Je sais que l'Esprit parle à chacun de nous. Et quand vous avez une idée, ben pourquoi pas le mettre sur papier? Peut-être ça va rimer, peut-être pas. Peut-être ça sera un texte ou quelque chose qui vraiment vient du fond de vous et que c'est l'Esprit de Dieu qui vous inspire. Croyez que Dieu, il peut vous inspirer et laissez le Saint-Esprit vous animer. Prenez votre plume et vous verrez que Dieu peut utiliser votre bouche comme un habile écrivain. Alléluia! Votre parole, votre main pour écrire des mots qui peuvent vraiment inspirer et fortifier dans ta personne. Alléluia! Seigneur, continue de nous parler tous les jours.
Voilà, un autre passage qu'on peut commenter et qui est intéressant à comprendre à condition qu'on le remette dans son contexte, c'est celui qui se trouve dans Matthieu 5, 22, où Jésus dit « Si quelqu'un te force à faire 1 mille avec lui, fais-en 2 ». Voilà. Alors ce verset traduit ainsi, veut-il dire que toute personne qui débarque chez nous et qui veut nous forcer à faire quelque chose pour elle ou aller marcher avec elle, on doit la suivre, non? Replacé dans le contexte, eh bien, on se rend compte qu'à l'époque de Jésus, il y avait une loi établie par les Romains qui faisait qu'un soldat romain pouvait demander à un passant, quelqu'un qui croisait sur son chemin, de porter sur la distance d'un mille, un mille ça fait 1,5 km, son paquetage. Et d'ailleurs, c'est ainsi que ça a été traduit dans la transcription dynamique d'Alfred Quinn du Nouveau Testament qui rend notre verset par « Et si quelqu'un vient te réquisitionner pour t'obliger à lui porter un fardeau sur 1 km, porte-le sur 2 km avec lui. » Bon, lui, il a réduit 1,5 km à 1 km. Parce que l'idée d'ailleurs n'est pas de mettre l'accent sur la distance, mais de mettre l'accent sur le fait que nous devons nous soumettre, nous l'avons vu précédemment, eh bien, aux autorités et aux lois, dans la mesure où ça ne nous force pas à faire quelque chose de contraire à l'esprit biblique. Et dans cette situation, loin de nous amener à faire quelque chose de contraire à l'esprit biblique, au contraire, ça nous permet d'appliquer l'esprit biblique qui consiste à décharger les gens. Donc nous devons être des personnes dociles et nous devons être des bons témoin de Jésus-Christ vis-à-vis de cette société, au lieu d'être des rebelles, toujours dans la contradiction. Maintenant, on peut amener le verset plus loin. Il est là pour nous enseigner aussi que si quelqu'un a un besoin, n'est-ce pas, au lieu de juste faire le minimum syndical, et je crois qu'on l'a vu aussi en partie avec notre exemple dans le cours précédent, pour lui rendre service, eh bien, faisons le double de ce qu'il nous demande, afin de lui manifester l'amour de Père qui est supposé habiter en nous, l'amour du Père céleste plus précisément. Waouh ! Et ça fait questionner les gens, vous savez, dans un monde où chacun cherche souvent à faire le minimum, ça fait questionner les gens lorsque vous en faites plus que ce qu'ils vous demandent. Mais en aucun cas, ce verset peut être justifié pour partir du principe qu'une personne peut débarquer chez nous et nous demander de faire ou de nous forcer de faire quelque chose si nous ne le voulons pas, alors qu'il n'est pas légalement commissionné pour cela. Donc, voyez, en toute chose, il y a un équilibre à trouver. Mais si nous voyons quelqu'un qui est dans le besoin, qui nous demande un service et que nous pouvons le faire, bien sûr, eh bien, ne rechignons pas à le faire et faisons plus que ce que la personne nous demande. Alléluia! Voilà le bel enseignement qui a tiré de ce passage. Mépris au pied de la lettre, il peut donner cours à tous les abus, vous le comprenez. Dans toute chose, réflexion, alléluia, replaçons les choses dans le contexte et puis faisons travailler notre cœur, on l'a vu dans les cours précédents, qu'est-ce que nous dit notre cœur vis-à-vis de soulager et de bénir les gens qui sont dans le besoin. Et le meilleur témoignage que nous pouvons donner aux gens de ce que Dieu s'intéresse à eux, c'est en leur rendant service, c'est en les soulageant. Et là, en soulageant eh bien, ce soldat romain. Autre point intéressant, d'ailleurs, qui se trouve dans ce passage, c'est que là, il s'agit d'un soldat romain. Donc, à l'époque de Jésus, le soldat romain, c'était l'ennemi. Donc Jésus nous enseigne aussi à aimer nos ennemis. Si quelqu'un qui ne nous aime pas, eh bien, a besoin d'un service, soyons prêts à lui rendre ce service. C'est la meilleure façon d'ailleurs pour gagner son cœur. Soyez toujours là, dispo, pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Et le témoignage le mieux rendu, c'est toujours par des actes et pas seulement par des paroles. Le monde en a assez, et moi aussi d'ailleurs au passage, de ces chrétiens qui parlent et ne font pas. Le principe biblique, c'est que nous devons appuyer les paroles par des actes.
Voilà, Claude. Maintenant, peut-être c'est le temps de clôturer cet enseignement.
Oui, on a donné à nos amis matière à réflexion.
Ouais.
Et nous prions vraiment que, bien, lorsqu'ils ne sont pas en face de nos vidéos, mais qu'ils lisent la Bible, eh bien, ils puissent avoir quelques points là, qu'ils ont retirés de ce que nous avons partagé qui vont les aider à permettre au Saint-Esprit de leur faire comprendre la parole de Dieu et de vivifier cette parole dans leur vie afin qu'à leur tour eux-mêmes ils soient un sujet de bénédiction.
Absolument.
Pour beaucoup.
Oui, mais oui, et que ça soit vraiment des paroles inspirées par le Saint-Esprit qui sort de notre bouche et qui guérit, qui fortifie et qui relève. Donc, Seigneur, vraiment, je prie à cet instant que le Rhéma de Dieu vienne nous visiter, que le Saint-Esprit nous éclaire, ouvre nos yeux, nos oreilles, ouvre notre bouche pour qu'on parle avec le discernement, avec l'Esprit de Dieu, des paroles qui vivifient les autres autour de nous. Mmh. Seigneur, merci pour ton Esprit maintenant. Alléluia.
Seigneur, ouvre notre intelligence et fais-nous comprendre ta parole.
Amen.
Fais-nous comprendre ta pensée.
Souffle.
Nous voulons avoir la pensée de Christ de plus en plus, alors que nous avançons sur ce chemin
Seigneur.
De notre destinée.
Merci pour ta parole.
Prions pour nos amis et pour nous-mêmes, au nom de Jésus.
Amen.
Mieux te connaître, apprendre à t'adorer, non selon la lettre, mais en esprit et en vérité. C'est mon profond désir, c'est mon plus grand plaisir, dans cette vie.